collection George Lang.
RTL.
RTL, il est 22h. Toutes les infos qui comptent sur RTL, c'est avec vous Mathilde Wessel, bonsoir.
Bonsoir Jean-Alphonse, bonsoir à tous. Ces nouvelles révélations dans l'affaire de cette assistante d'école maternelle accusée de viol sur des élèves de 3 à 4 ans dans l'Hérault. C'est une information RTL que nous vous donnons ce soir. L'ATSEM de 59 ans a travaillé pendant 10 ans pour la mairie de Montpellier, là encore pour des écoles maternelles. Pour l'instant, aucun signalement n'a été retrouvé. L'enquête prend donc un nouveau tournant. Et puis un chiffre en forte augmentation cette année dont on se serait bien passé. 193 morts de noyades en France entre le 1er juin et le 23 juillet. Les noyades mortelles sont donc en hausse de 45% par rapport à l'année dernière. Des chiffres alarmants communiqués par Santé publique France. Des noyades dues à la canicule qui a démarré plus tôt cette année. Et international, alors que la population gazaouie est menacée par la famine, la France a commencé à larguer de l'aide humanitaire par avion aujourd'hui. Face à l'urgence absolue, déclare Emmanuel Macron, une opération de largage de vivres à Gaza a eu lieu. Le chef de l'État ajoute que les largages ne suffisent pas et demande à Israël d'ouvrir un plein accès humanitaire pour répondre au risque de famine. 40 tonnes d'aide humanitaire devraient donc atterrir à Gaza afin d'améliorer les conditions de vie des Palestiniens. Une méthode qui pourrait être dangereuse, comme l'explique Xavier Tittelmann, ex-aviateur militaire, consultant aéronautique et défense.
Évidemment, dans un environnement urbain aussi dense que Gaza, si ça tombe sur des bâtiments, ça va les détruire. Si ça tombe dans l'eau, c'est perdu, parce qu'il y a des risques au sol, parce qu'il y a des drones, parce qu'il y a des missiles qui sont toujours lancés par le Hamas, parce qu'il y a éventuellement des opérations aériennes de la part d'Israël. On est obligé de voler beaucoup plus haut. Et là, la grosse difficulté, c'est la dispersion éventuelle des colis. Donc la France, elle va larguer ses colis. Ils vont tomber à la verticale pendant vraiment parfois des milliers de mètres d'altitude, et quand ils sont seulement à quelques centaines de mètres d'altitude, il y a une sorte de charge pyrotechnique qui va se déclencher, qui va permettre de déclencher les parachutes, et ça permet d'avoir une précision au sol qui va être seulement de quelques dizaines de mètres. Donc il y a vraiment une importance très très cruciale d'être capable de bien viser dans ces environnements qui sont pour le moins très complexes.
Propos recueillis par Vincent Serrano pour RTL. Un mot de sport déjà monté sur la dernière marche du podium du 100 mètres d'eau. Le français Yoann Ndoye-Brouard s'est offert une nouvelle médaille de bronze. C'était lors de la finale du 200 mètres d'eau ce vendredi aux Mondiaux de natation à Singapour. Et puis un mot également du Tour de France féminin avec cette deuxième victoire consécutive pour Maëva Skiban. Après s'être imposée hier, la Française a franchi la ligne en tête de cette septième étape. Arrivée donc à Chambéry, la Mauricienne Kim Lecour conserve son maillot jaune devant Pauline Ferrand-Prévot. Un mot de météo. Demain matin, le ciel restera assez nuageux des Alpes au nord-est avec quelques averses. Un temps pluvieux le long de la frontière belge, mais des éclaircies se développeront par la suite. Un ciel variable des Hauts-de-France au nord des Alpes et sur l'Auvergne avec quelques ondées possibles. Dans le sud-ouest, le soleil s'impose au fil des heures. Quelques averses sont à prévoir, elles, du côté des Pyrénées. Tout de suite, vous avez rendez-vous avec George Lang, Beach Party sur RTL.
Exactement. Merci. À tout à l'heure, Mathilde Wessels. Vous nous informez sur RTL et on est content de tout savoir avec vous. À tout à l'heure.
À tout à l'heure. Music in a moment.
Round, round, get around. Le vendredi soir, c'est le début du week-end. Thank God, it's Friday.
No, thank George, it's Friday. Allez, on recommence.
Le vendredi soir, c'est le début du week-end. Thank George, it's Friday.
À 22h, Beach Party sur RTL. Et à 23h, les Nocturnes de l'été.
Les essentiels du rock dans les Nocturnes de l'été. Cet été, retrouvez Flavie Flamand et Jimmy Mohamed chaque samedi et chaque dimanche sur RTL.
Les compléments alimentaires sont-ils vraiment nécessaires?
Quels sont les bienfaits de l'ananas pour votre santé?
Et pourquoi les femmes sont-elles moins bien prises en charge que les hommes dans le traitement de l'arthrose?
Toutes les réponses dans Ça va beaucoup mieux, le magazine santé et bien-être de 9h15 à 10h sur RTL.
Ça va beaucoup mieux.
À demain, Jimmy.
La mairie.
sanitaire dans certaines zones du territoire pour que les poids lourds transportant vivres et médicaments puissent circuler sans encombre. C'est un changement important puisque depuis le mois de mai, l'approvisionnement était essentiellement assuré par une société américaine dans un nombre limité de points de distribution. Mais le système conçu pour éviter que le Hamas ne s'accapare les vivres pour les revendre à prix élevé n'a pas fonctionné. Et face au risque de famine et aux pressions internationales, y compris et surtout celle de Washington, eh bien Israël a dû autoriser dans la précipitation l'acheminement de l'aide par les voies traditionnelles. Selon des témoignages de plusieurs Gazaouis, cette aide est en partie au moins à nouveau pillée par les terroristes du Hamas. L'organisation islamiste sort d'autant plus renforcée de cette crise qu'elle est parvenue à l'exploiter pour sensibiliser les opinions choquées par les images de malnutrition venant du territoire Gazaoui, sans qu'on suivi des pressions diplomatiques d'une ampleur inédite sur Israël et aussi un durcissement des positions du Hamas dans le cadre des négociations sur la libération des otages israéliens encore détenus dans la bande de Gaza.
Frédéric Simon pour Europe 1. Et pendant ce temps, le Hamas a publié aujourd'hui une nouvelle vidéo d'un otage israélien enlevé lors de l'attaque du 7 octobre 2023. Impossible pour le moment de déterminer l'authenticité de la vidéo ni la date de son enregistrement. Une autre vidéo avait été publiée jeudi.
Europe 1 Nuit. Adrien Spiteri.
Et après cette page sur la situation dans la bande de Gaza, nous allons évoquer un autre conflit, celui entre la Russie et l'Ukraine. Vladimir Poutine a pris la parole aujourd'hui, il assure vouloir une paix durable, mais Moscou exige que Kiev lui cède 4 régions dans le pays. Une déclaration quelques jours après l'ultimatum fixé par Donald Trump pour mettre fin à la guerre. Cet ultimatum justement a fait réagir l'ex-président russe Dmitri Medvedev, qui y voit, dit-il, une menace et un pas vers la guerre avec les États-Unis. Une déclaration peu appréciée par Donald Trump, qui a répondu aujourd'hui. Antoine Bienveau, bonsoir.
Bonsoir.
Antoine, le chef de la Maison-Blanche ordonne l'envoi de sous-marins nucléaires dans des zones appropriées, dit-il.
Oui, le président américain l'a dit sur son réseau social Truth, des zones appropriées, mais Donald Trump ne précise toutefois pas exactement où ces engins seront précisément envoyés, ni s'il s'agit de sous-marins porteurs ou non d'ogives nucléaires. Quoi qu'il en soit, cette annonce est une menace supplémentaire pour tenter d'amener Vladimir Poutine autour de la table des négociations. C'est en tout cas l'analyse du géopolitologue Alexandre Delval.
Trump continue sa doctrine de la paix par la force. Bien sûr, il ne fera pas comme en Iran. Il ne peut pas s'amuser à bombarder la Russie. Mais c'est quand même une façon de montrer que je suis Trump le fou. Je suis imprévisible et je suis capable d'aller jusqu'au bout.
Dans son message, Donald Trump s'en prend aussi directement à Dmitri Medvedev en faisant référence à leurs échanges de ces derniers jours. Je cite « Les mots comptent et peuvent souvent avoir des conséquences imprévues. J'espère que cela ne sera pas le cas cette fois », écrit notamment le président américain.
Antoine Bienveau pour Europe 1. Donald Trump qui a justement officialisé les nouveaux droits de douane américains. Leur application a été reportée au 7 août, mais déjà les premières conséquences se font ressentir. Les bourses mondiales sont dans le rouge et certains pays comme la Suisse seront taxés jusqu'à 39%. C'est l'un des secteurs les plus touchés justement par l'accord commercial passé entre Donald Trump et Ursula von der Leyen, l'industrie de la beauté, des cosmétiques et des parfums. Cette filière va passer de 0 à 15% de droits de douane. Autrement dit, c'est la fin du libre-échange. Or, Baptiste Morin, le marché américain est essentiel.
Derrière l'aéronautique, les vins et spiritueux et les médicaments, les cosmétiques sont les quatrièmes produits français les plus exportés vers les États-Unis. Quelques 3 milliards d'euros de marchandises l'année dernière, pour lesquels les États-Unis sont le premier débouché. Et la moitié de ces exportations de cosmétiques sont des parfums pour le groupe Interparfum qui fabrique et distribue de grandes marques comme Lacoste, Moncler ou encore Boucheron. Les États-Unis représentent un tiers des ventes. Si le groupe a augmenté ses tarifs à l'export en conséquence, son PDG Philippe Bénassin n'en reste pas moins inquiet.
Depuis 2-3 mois, on sent qu'il y a moins d'appétit, il y a moins d'enthousiasme sur tous les marchés. Donc je ne suis pas aussi optimiste sur le deuxième semestre que le premier.
Avec 15% de droits de douane, le secteur de la cosmétique estime ses pertes potentielles à 300 millions d'euros et 5 000 emplois. Il demande au gouvernement des mesures de simplification pour améliorer sa compétitivité de façon à se tourner vers d'autres marchés prometteurs comme l'Inde.
Et Baptiste Morin, chef du service économie d'Europe 1. Aujourd'hui, justement, la Fédération des exportateurs de vins et spiritueux français ne cache pas son inquiétude et appelle la France et l'Union européenne à la poursuite des négociations.
Europe 1 Nuit. Adrien Spiteri.
Il est 22h09 sur Europe 1, partons à Nîmes où le couvre-feu pour les mineurs de moins de 16 ans a été reconduit pour 2 semaines. Annonce de la municipalité aujourd'hui. Elle évoque des circonstances de dangerosité et d'insécurité. 7 nouveaux détenus ont rejoint la prison de haute sécurité de Vendin-le-Vieil. L'établissement pénitentiaire continue d'accueillir les narcotrafiquants les plus dangereux de France. Depuis le 22 juillet, 58 prisonniers au total ont été transférés, dont Mohamed Amra. Et justement, la population carcérale atteint un nouveau record avec près de 85 000 détenus au 1er juillet pour 62 000 places opérationnelles, des chiffres publiés par le ministère de la Justice aujourd'hui. 2 hommes ont été retrouvés morts, tués par balle près de Dijon cette nuit. Leurs corps ont été retrouvés dans une entreprise de BTP. Il s'agirait de 2 employés selon le maire. Le corps d'une 3e personne a été découvert peu après dans une autre localité. Je vous en parlais en début de ce journal. Un grand chassé-croisé est attendu pour ce premier week-end du mois d'août. L'occasion de faire un bilan dans le secteur touristique. Dans le Pas-de-Calais, sur la Côte d'Opale, les touristes français étaient bien présents, mais avec un pouvoir d'achat en baisse, et les restaurateurs l'ont ressenti au mois de juillet. Pierre Nucci est président de l'UMI, l'Union des métiers de l'industrie et de l'hôtellerie-restauration dans le Pas-de-Calais.
On est à 24% de moins par rapport à l'année 2024, sur le mois de juillet. Et c'est surtout la restauration traditionnelle qui souffre. En brasserie, les gens vont aller manger une moule parce qu'on est quand même relativement pas cher. Mais on sent bien que, par exemple, ils vont peut-être pas prendre un dessert, ou ils vont pas prendre une entrée, ou ils vont prendre qu'un plat puis se sauver, prendre une carafe d'eau. Donc on sent bien quand même que la consommation est quand même limitée et bien réfléchie. Les gens font un peu plus attention. Première clientèle, c'est quand même les Français. Deuxième clientèle, c'est les Belges. Troisième clientèle, c'est les Allemands. Heureusement qu'on a cette clientèle-là qui vient alimenter quand même nos établissements. S'ils n'étaient pas là, ça serait encore un peu plus dramatique.
Pierre Nucci, président de l'UMI. Cet été, les autorités appellent à respecter les interdictions de baignade. En moins de 2 mois, 200 personnes, dont 27 enfants, ont perdu la vie par noyade. C'est 45% de plus que l'an dernier. De nombreux accidents ont eu lieu en Nouvelle-Aquitaine ces dernières semaines. Nous sommes le 1er août et comme chaque début de mois, il y a du changement. Le taux du livret A, notamment, est en baisse. Il passe de 2,4% à 1,7%. La TVA sur les abonnements énergétiques passe, elle, de 5,5% à 20%. Un mot de sport à présent, on va parler de Formule 1. Ce week-end a lieu le Grand Prix de Hongrie et avant cette échéance, il y a eu de nombreuses annonces. Max Verstappen reste chez Red Bull pour 2026 et Christopher Philock, Frédéric Vasseur est lui prolongé à la tête de Ferrari.
Oui, arrivé en 2023, le patron français est confirmé dans ses fonctions pour une durée qui n'est pas précisée, une communication de Ferrari, alors que la presse italienne laissait entendre début juin que le dirigeant de 57 ans était sur la sellette. Les premiers mots de Frédéric Vasseur au micro de Canal+.
C'est une bonne nouvelle. Dans notre métier, c'est très important d'avoir de la stabilité. Globalement, on fait des progrès, ça se voit pas toujours, mais au moins on est deuxième du championnat. Donc voilà, je pense que l'étape est importante. Ça permet à tout le monde d'être focus sur la fin de l'année, sur le projet de 2026 et que je pense que c'était le bon moment et le bon timing pour le faire.
Le choix de la stabilité donc pour la Scuderia, une bonne nouvelle pour le duo de pilotes Charles Leclerc et Lewis Hamilton.
Il n'y avait jamais de doute sur ça, mais bon, c'est top. Je suis très très content.
C'est important pour l'équipe d'avoir de la continuité avec lui. Je le dis depuis le début que Fred Vasseur est la meilleure personne pour diriger l'équipe.
Une clarification et un gage de la confiance que lui accorde la légendaire écurie italienne qui connaît pour l'heure une saison sans éclat, toujours à la recherche d'une première victoire en Grand Prix cette saison.
Christopher Philock pour Europe 1. Notez que les qualifications de ce Grand Prix sont évidemment à suivre demain dès 16h sur Canal+. Après le sport, la météo pour demain et les prochains jours. Avec vous, Anthony Kazmarek. Anthony, elle s'annonce un petit peu particulière, cette météo.
Exactement, une météo plus que particulière, mon cher Adrien, parce que figurez-vous que quelqu'un va nous quitter. Quelqu'un va s'effacer, s'éclipser.
C'est vous.
Il s'agit de la fraîcheur qui va enfin quitter notre pays. À partir de lundi, de fortes chaleurs vont à nouveau s'installer d'abord dans la moitié sud. Ce sera plutôt pour mercredi, voire jeudi sur la moitié nord, mais on risque localement de parler de canicule, notamment dans le sud-ouest en fin de semaine prochaine. On n'en est pas là. Intéressons-nous tout d'abord à la journée de demain, samedi, qui sera encore assez perturbée, notamment dans le nord et dans l'est, avec de fréquentes averses sur les Hauts-de-France, les Ardennes au lever du jour, mais aussi entre le centre-est, la Franche-Comté et l'Alsace. Ailleurs, ce sera plus calme, plus sec, plus ensoleillé, notamment en allant vers la côte atlantique et près de la Méditerranée. Dans l'après-midi, toujours un risque d'averse et un ciel assez chargé près des frontières du nord et du nord-est, jusqu'à la Franche-Comté. Ailleurs, les éclaircies seront de plus en plus présentes, les averses de plus en plus rares et le temps sera très ensoleillé dans la moitié sud, près des côtes de la Manche et sur les côtes bretonnes. À noter toutefois que le Mistral et la Tramontane vont se renforcer près de la Méditerranée, renforçant aussi le risque de feux de forêt. Les températures demain après-midi, en légère baisse au nord, 20 à 25 degrés, 23 à 29 sur la moitié sud, jusqu'à 31 degrés à Perpignan et à Nîmes. Vous aurez 28 à Toulouse, 23 à Paris, 21 à Lille. Allez, on oublie tout ça, on profite du week-end. Je vous souhaite un très bel été à l'écoute d'Europe 1. Je vous dis à très bientôt.
Merci beaucoup Anthony Kazmarek. Et puis bonnes vacances aussi à vous Anthony. Dans un instant, c'est la libre antenne sur Europe 1. Restez bien avec nous.
Europe 1. La libre antenne. Sana Blanger.
La libre antenne du week-end. Cet été, la libre antenne est en direct du lundi au jeudi. Néanmoins, je vous propose d'écouter les témoignages les plus forts et les plus marquants.
Europe 1, la libre antenne, Sana Blanger.
Bonsoir Jeanne.
Bonsoir Sana, c'est ça.
Exactement, Sana, hein. Sana, S-A-N-A, tout simplement. Bienvenue à la libre antenne.
Oui, j'ai déjà appelé il y a 2 ans, j'ai fait part d'une grosse peine que j'avais.
Oh, allô? Je reconnais votre voix, Jeanne. Nous avions échangé ensemble.
Je ne sais pas si c'était vous, peut-être, je ne sais plus.
Ah, oh, j'ai le sentiment que c'était
peut-être,
vous.
Peut-être, alors j'ai appelé parce que j'étais dans la peine.
Dites-nous tout.
Vous m'avez réconfortée. Alors là, j'ai une bonne nouvelle. Alors je voulais en faire part.
Alors, quelle est cette bonne nouvelle, Jeanne ?
Eh bien, je vous avais appelé parce que mon fils était parti. Était décédé.
Était décédé, tout à fait.
Et mon fils a un fils.
Donc votre et petit-fils.
Mon petit-fils. Et mon petit-fils a eu une fille. Et je suis allée au baptême le 8 juin de mon arrière-petite-fille et au mariage de mon petit garçon en même temps.
C'est fantastique.
Voilà. Alors, comme j'ai eu une grande peine, je l'ai partagée avec vous. Alors, je voulais partager mon bonheur.
Ben, ça fait du bien à entendre.
Voilà.
Vraiment. Ça fait énormément de bien.
Si vous vous rappelez, je vous avais dit mon fils a été enterré le jour de mon anniversaire.
Eh bien, je me souviens, donc c'était bien avec moi.
Le 8 février, oui. Je mettais mon fils en terre le jour de mon anniversaire.
Et là, donc, voilà.
Et là, il a un fils, et donc mon petit garçon, et il a un bébé, et je suis montée, j'ai 91 ans, hein. Je vous avais même dit que j'étais montée, quand j'ai su que mon fils était mort, j'ai pris ma voiture, j'ai monté, j'ai fait mes 1000 kilomètres la nuit, et on m'a dit, il n'aurait pas fallu que vous fassiez ça, mais il n'y avait ni Dieu ni diable qui m'ont retenu, hein, mon fils.
Oui. Alors, comment c'était ce baptême ?
Oh, c'était merveilleux.
Oui, racontez-nous un petit peu.
Eh bien, mon fils est amateur de voitures anciennes. Alors, mon petit garçon, je suis montée donc dans les Ardennes, et il est arrivé devant l'église avec l'attraction de son papa pleine de fleurs. Il m'a annoncé, je me marie et je baptise en même temps. J'étais montée pour le baptême et il s'est marié en même temps. On a fait tout en même temps.
Ah, c'est
alors,
bien.
C'est une bonne nouvelle.
Ah,
j'ai partagé ma douleur, là. Je partage ma joie.
Bon, et qu'est-ce qu'on ressent alors, de la joie et quoi d'autre?
Oh, c'est incroyable. Alors, j'ai lu une petite chose que j'ai trouvée vraiment, c'est pas de moi, mais j'ai lu une petite chose, je peux vous la lire?
Ah, oh, ben évidemment, Jeanne.
La vie est ironique. Il faut de la tristesse pour connaître le bonheur. j'ai trouvé que ça m'allait vraiment bien. Un bruit pour apprécier le silence et une absence pour profiter d'une présence. J'ai trouvé que c'était vraiment... Moi, c'est peu de choses envers cette pauvre dame qui a passé avant moi, là. Mais je voulais vous faire part. J'ai eu une douleur et là, j'ai un bonheur. C'est pour ça que je vous ai appelé pour vous communiquer.
Merci, voilà. Merci Jeanne.
Vous avez été tellement aimable avec moi quand je vous avais appelé, que j'avais raconté tout de A à Z et...
Oui, oui, c'est tout à fait normal. Jeanne, vous voyez, il y a quelque chose de profondément bouleversant dans ce que vous venez de faire, c'est que vous avez traversé l'ombre et ce soir, voyez, vous nous offrez un instant de lumière. Pas une leçon, pas une morale.
C'est beau comme elle est. Sur son sourire, elle a les droits sur ses désirs. Le groupie du pianiste, elle sait rester là sans rien dire pendant que lui joue ses délires. Le groupie du pianiste. Quand le concert est terminé, elle met ses mains sur le clavier en rêvant qu'il va l'emmener le reste de sa vie, simplement à l'écouter. Elle sait comprendre sa musique, elle sait oublier qu'elle existe. La groupie du pianiste. Mais Dieu que cette fille prend des risques, amoureuse d'un égoïste. La groupie du pianiste. Elle fout toute sa vie en l'air. Sa vie c'est pas grand chose. Qu'est-ce qu'elle aurait bien pu faire à part rêver seule dans son lit le soir entre ses draps roses. Elle est, elle est là. Plus que tout elle est. C'est beau comme elle est. Elle est, elle est là. C'est fou comme elle est. C'est beau comme elle est.
Ici.
Ici.
You could
plein tube. C'est ici. Camping, musique et bonne humeur. Everybody get up.
-4 degrees and I get what you're saying. if I turn 33. Okay, so yeah, I smoke like a chimney. I'm not skinny and I pull a Britney every other week. But cut me some slack. Who do you want me to be? Cause I'm too messy. And then I'm too fucking clean. You told me get a job and you asked where the hell I've been. And I'm too perfect. So I open my big mouth. I want to be me. Is that not allowed? And I'm too clever. And then I'm too fucking dumb. You hate it when I cry unless it's that time of the month. And I'm too perfect. So I show you that I'm not a thousand people. I could be for you when you hate the fucking law. You hate the fucking law. Text or two would be nice, and please don't pull those faces. When I'm out working my ass off all day, it's just one bottle of wine. Oh, I'm stupid. Hey, you can't even talk. You smoke weed just to help you sleep. And why you out getting stoned at 4 o'clock? And then you come home to me.
Avec nous. Vous êtes ancien chef de la mission militaire française auprès de l'ONU à New York. Vous avez entendu hein, ce que vient de nous détailler Sandrine Netto-Handeg. Est-ce que vous diriez que c'est de la gesticulation de la part du président américain ?
Alors ça marque très certainement un changement de ton de la part du président américain. Il faut se rappeler que M. Medvedev, depuis 3 ans, n'arrête pas d'aller aux extrêmes. On prétend qu'il est un peu le fou de Monsieur Poutine. Et donc, on ne tenait pas tellement compte de ces diatribes depuis 3 ans. Si le président Trump prend prétexte des dernières déclarations, c'est pour saisir une occasion de marquer le changement de ton qu'il prend vis-à-vis de la Russie. Il faut rappeler aussi que les sous-marins nucléaires, on pense que c'est les sous-marins nucléaires lanceurs d'engins, bien sûr, il y en a 14 aux États-Unis, dont 4 sont en plongée permanente. Donc là, si on parle d'en envoyer 2 supplémentaires, c'est ce que je comprends, ça fait près de la moitié des sous-marins nucléaires lanceurs d'engins américains qui sont en alerte. Et là, c'est un signe très sérieux vis-à-vis des États-Unis, vis-à-vis de la Russie, pardon, dans le bras de fer qui l'oppose maintenant directement la Russie aux États-Unis.
Mais est-ce que ces sous-marins n'étaient pas déjà positionnés là où ils sont ? Est-ce que c'est pas juste une manière de dire tout haut une chose qui existait déjà dans les faits ?
Écoutez, c'est difficile de le comprendre, et puis en plus, annoncer des événements d'importance comme ça sur un réseau social, c'est une drôle de façon de pratiquer le rôle d'un chef d'État. Mais écoutez, on n'en sait rien, honnêtement. Est-ce que ça veut dire que sur les 4 sous-marins qui sont en alerte, il y en a 2 qui changent de zone, ou est-ce que ça veut dire qu'il y en a 2 de plus par rapport aux 4 qui sont déjà en plongée? Je n'en sais rien.
Et oui, parce que c'est vrai que les termes sont très vagues, hein, objectivement. Vous l'avez souligné, c'est une annonce sur son réseau social, et il parle de 2 sous-marins nucléaires positionnés dans des zones approprié, donc c'est très très vague. Et est-ce que ces zones appropriées, vous avez une idée, est-ce que ça veut dire que c'est des zones proches de la Russie?
Écoutez, des sous-marins nucléaires lanceurs d'engins n'ont pas à être proches de la Russie pour menacer la Russie. Du milieu de l'Atlantique ou du Pacifique,
ils ont quelle capacité?
Ah ben, ils ont des capacités qui tirent des missiles à 6000 km. Donc, il n'y a pas besoin de se rapprocher. C'est pour ça que quand on parle de zone appropriée, ça peut dire un peu n'importe quoi et son contraire. Non, je pense que c'est vraiment un signal qui est envoyé. On passe aux choses sérieuses. Les États-Unis prennent des mesures de protection directe contre la Russie. Et ça, c'est la première fois, en fait, que le président Trump le dit.
Et c'est un signal qui est envoyé au moment où, on le rappelle, il y a toujours cet ultimatum qui court. On est à J-7, ultimatum lancé par Donald Trump à Vladimir Poutine, sous peine de mesures de rétorsion plus sévères, hein, qui pourraient toucher l'économie russe. Est-ce que ce n'est pas finalement une façon de mettre une pièce de plus, de dire attention, là je plaisante absolument pas, cet ultimatum, il est sérieux, et là je positionne mes sous-marins, histoire de rendre la menace encore plus concrète.
Oui, tout à fait, mais depuis plus de 6 mois, on voit l'augmentation progressive par M. Trump de la réalisation qu'il a du fait que M. Poutine n'écoute absolument pas ce qu'il dit. Et donc, pour prendre les derniers événements, on met la barre à 50 jours, puis d'un seul coup à 12 jours, puis à 10 jours, et là on rajoute des sous-marins nucléaires dans l'affaire. Ça veut dire que, vraiment, il est en train d'essayer de faire comprendre à M. Poutine qu'il ne reculera plus, et que c'est à M. Poutine de reculer. Sauf que je pense que M. Poutine ne reculera pas.
Donc là, pour vous, ça n'est pas une manœuvre militaire classique?
Non, c'est pas une menace, c'est ce qu'on appelle un signalement stratégique. Je préviens celui qui est devenu mon adversaire, alors que souvenez-nous, au début c'était plutôt un allié, le russe et Trump. Et maintenant, c'est devenu un adversaire, et à cet adversaire, je grimpe les échelons pour lui montrer, en déployant de nouveaux sous-marins nucléaires lanceurs d'engins, que maintenant c'est une confrontation directe avec les États-Unis et que donc il doit prendre cela en compte.
Merci beaucoup, général Trinquant. Merci d'avoir été l'invité de France Info, ancien chef de la mission militaire française auprès de l'ONU à New York. Dans un instant, on va revenir sur le premier largage d'aide humanitaire de la France sur Gaza.
L'info sur France Info, c'est aussi votre vie quotidienne.
Je prends le métro tous les jours et souvent j'ai déjà eu des problèmes. Des garçons qui vous suivent, des mains aux fesses, c'est déjà arrivé plusieurs fois. On essaye de changer de wagon ou sinon on sort du métro. Je vais faire attention, par exemple je sais que je prends le métro, si j'ai un t-shirt qui est un peu décolleté, je vais mettre une écharpe par-dessus ou quelque chose, faire attention.
France Info, pas juste l'info, l'info juste. France Info, 20h minuit, Hélène Zélani.
Face à l'urgence absolue, selon les termes d'Emmanuel Macron, la France a donc conduit aujourd'hui une opération de largage de vivres à Gaza. 40 tonnes d'aide livrées au total sur plusieurs jours, Isabelle Labéry.
L'appareil déployé aujourd'hui est un C-130, un avion militaire parti de Jordanie, mais habituellement stationné sur la base aérienne d'Evreux, au sein de l'escadron franco-allemand de transport tactique. Il y aura d'autres vols ces prochains jours. La France en prévoit 4, au total, chacun emportant 10 tonnes de fret humanitaire. Sur les images diffusées en début d'après-midi par le ministère des Armées, on voit les gros ballots de marchandises basculer dans le vide, un drapeau français positionné en évidence derrière les sangles. Mais on l'a dit, et répétée, cette aide d'urgence, également conduite avec l'appui des Émirats arabes unis, est à la fois coûteuse, inefficace et insuffisante. Emmanuel Macron le reconnaît sur X. Il faut qu'Israël ouvre un plein accès humanitaire pour répondre au risque de famine. Aux trois points d'entrée de la bande de Gaza, près de 6000 camions de l'ONU attendent en effet une autorisation israélienne pour passer. Mais l'armée de l'État hébreu rejette la responsabilité du blocage sur le Hamas. La France a donc procédé à sa première opération de largage de vivres sur la bande de Gaza. Bonsoir Aymeric Helluin.
Bonsoir.
Merci beaucoup d'être en direct sur France Info. Vous êtes chargé du plaidoyer armée-conflit armé chez Amnesty International France. J'imagine avant tout que vous vous félicitez de cette opération humanitaire.
Alors, se féliciter, c'est peut-être un grand mot. C'est un début, en tout cas, mais qui est absolument dérisoire. C'est complètement insuffisant. C'est une goutte d'eau dans l'océan. On parle de 4 vols, 10 tonnes de largués. Un camion, c'est 20 tonnes. Un camion, c'est 20 tonnes. Les besoins humanitaires évalués par les Nations Unies s'élèvent à 62 000 tonnes par mois, uniquement pour l'aide alimentaire. Donc on imagine et on fait la comparaison avec ce que la France a largué, ce qui a été largué ce week-end c'est 25 tonnes. Rappelons que sur place ce sont plus de 2 millions de personnes, donc imaginez 40 tonnes pour 2 millions de personnes. Donc c'est louable, mais ce qui est critique en fait et qui est absolument fou, c'est que cette situation était prévisible. Cette crise n'est pas une crise naturelle, c'est une crise artificielle qui a été montée par l'État d'Israël, qui a pris la main sur l'approvisionnement en aide humanitaire, qui a instauré un blocus illégal. Aujourd'hui, vous avez 4 points de distribution. Lorsque les Israéliens ont cassé le cessez-le-feu unilatéralement en mars, il y avait 400 points de distribution. Aujourd'hui, comme le disent les Nations Unies, il faut inonder la bande de Gaza. Pourquoi ? Parce qu'il y a famine.
Et ces largages, le principe du largage, alors on a compris que vous critiquiez la quantité, hein, qui est assez dérisoire par rapport aux besoins. Le principe de larguer par les airs, comment vous le qualifieriez ?
En général, on recourt au largage aérien en extrême recours lorsqu'il n'y a pas d'autres moyens à disposition. Aujourd'hui, les largages tels qu'ils sont conçus sont absolument insuffisants en termes de quantité, on l'a dit, mais ils rajoutent de l'insécurité à l'insécurité existante. Je m'explique. Quand vous larguez du fret humanitaire, évidemment, vous prévoyez des couloirs aériens, vous faites attention aux conditions météo. On a des équipes militaires qui sont rodées à l'exercice, mais au sol, vous avez une palette d'une tonne qui tombe. Alors si les largages aujourd'hui se sont améliorés, ils sont un peu plus précis, il faut imaginer la densité de population sur place. Donc il n'est pas impossible que des palettes tombent sur des tentes, sur des lieux habités, tombent à la mer. C'est arrivé l'année dernière, souvenons-nous l'année dernière. L'année dernière, vous avez des palettes qui sont tombées à la mer, qui ont dérivé à cause du vent. Il y a des Gazaouis qui sont allés les chercher, qui se sont noyés. Il y a des palettes qui ont écrasé des personnes. Et évidemment, quand vous larguez des palettes comme ça, sans aide au sol pour assurer la distribution des biens qui sont fournis, vous rajoutez l'insécurité. Pourquoi ? Parce que ce sont les plus forts qui vont arriver les premiers sur la scène. Ce sont, donc on va assister à des scènes de chaos et les plus vulnérables n'auront pas accès tout de suite à l'alimentation. Je pense aux enfants, aux femmes enceintes, aux femmes allaitantes, je pense aux personnes âgées, je pense à toutes ces personnes malades. Rappelons-nous, ça fait près de 22 mois. Ça fait près de 22 mois que Gaza est ravagé. Ça fait près de 22 mois qu'on parle de malnutrition, qu'on parle fréquemment de manque de ressources alimentaires, de manque en ressources en eau potable. Aujourd'hui, on parle de d'aide alimentaire, mais on parle d'eau aussi, parce que l'eau, évidemment, c'est important. C'est même peut-être le premier bien. Vous ne pouvez pas tenir quelques heures sans vous déshydrater. Mais il y a aussi l'assistance médicale qui doit faire partie de cette aide humanitaire. Et quand on pense aujourd'hui au système mis en place par les Américains et les Israéliens, ce sont des guet-apens.
Alors, les Nations Unies
ce matin déclaraient que
Je voulais vous parler de
1000 morts.
Justement, je voulais vous parler de cette GHF, Fondation humanitaire pour Gaza. L'émissaire américain Steve Witkoff était sur place sur un des points de distribution et il affirme que 100 millions de repas ont été servis en 2 mois. Vous pensez que c'est faux ?
Alors moi, j'ai aucune information là-dessus et évidemment, à partir du moment où il n'y a que des éléments oraux sur lesquels s'appuyer, on ne peut pas s'appuyer dessus. Moi, je rappelle juste que les Américains, ce sont les premiers fournisseurs en armes d'Israël. Ce sont les Américains qui ont mis en place cette organisation humanitaire avec cette fameuse GHF et on a dénoncé le recours à cette aide humanitaire militarisée. L'aide humanitaire, elle n'est jamais faite, elle ne peut pas être faite par des militaires. L'aide humanitaire répond à des principes stricts, indépendance, impartialité, neutralité. Et aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est des guet-apens. On voit sur les points de distribution, sur les couloirs amenant à ces points de distribution, des gens qui se font tirer dessus à vue, des gens décharnés qui sont en train de mourir de faim et de soif, qui ont fait des kilomètres dans des zones qui ne sont pas sécurisées pour récupérer la nourriture et qui aujourd'hui prennent des risques en allant sur ces points chercher à manger. Ce qui se passe, c'est une désamination totale de cette population à Gaza. C'est une population qui est abandonnée. Alors le sursaut d'aujourd'hui, il est bienvenu, mais ne nous faisons pas croire que l'anticipation n'était pas possible. On savait qu'on allait en arriver là. Ce n'est pas possible autrement. Les indicateurs des Nations Unies, les ONG sur place, le disent depuis des mois et des mois. Et en France, l'Élysée a été prévenue par les différents acteurs, les affaires étrangères également. Donc ce sursaut, il est peut-être salutaire aujourd'hui, parce qu'on a le sentiment qu'il se passe quelque chose, mais en fait, il est absolument dérisoire. Et si on veut que ça change, il faut absolument continuer à mettre la pression sur Israël pour renoncer à ce système d'aide militarisée qui n'engendre que mort.
Alors justement, si on veut que ça change, quelle est, selon vous, la solution pour tenter de mettre fin à cette situation de famine dans la bande de Gaza ?
Il faut continuer à mettre la pression sur Israël. La solution, elle est simple, elle est entre les mains d'Israël, mais Israël ne veut rien faire. Israël a tout pouvoir aujourd'hui sur la bande de Gaza. Israël, aujourd'hui, est en mesure d'ouvrir tous les accès à Gaza. Absolument tous. Aujourd'hui, on a besoin de 600 camions à peu près qui doivent rentrer de façon journalière sur Gaza. Vous en avez des centaines qui sont positionnés à
Erich. 6 000 selon l'ONU en attente de feu vert pour rentrer à Gaza.
Oui, 6 000. Donc, il suffit d'ouvrir les portes. Il suffit d'ouvrir les portes pour que ces marchandises, c'est à la fois cette aide alimentaire, ces biens de première nécessité. On parle aussi de carburant. Hein. Si vous n'avez pas de carburant, vous ne faites pas tourner les ambulances, vous ne faites pas tourner les hôpitaux quand ils en restent, les infrastructures de santé. On parle de gaz de cuisson aussi. Bah, si vous voulez faire la cuisine avec un minimum d'eau potable et pour pouvoir faire cuire des aliments, vous avez besoin de gaz de cuisson aussi. Donc la solution est entre les mains de l'État d'Israël, mais Israël ne le veut pas. Et nous avons documenté depuis décembre dernier un génocide en cours. Et aujourd'hui, la famine qui est en place concourt à ce génocide. Donc, il faut ouvrir tous les accès. Il faut faire en sorte que l'aide humanitaire aille à ceux qui en ont le plus besoin, qui sont en train de mourir de faim et de soif.
Voilà, ouvrir tous les accès, c'est ce que vous demandez. Merci, Émeric Éluin, chargé du plaidoyer armes et conflits armés chez Amnesty International France.
France Info, 20h minuit, Hélène Zélani.
Le Fil Info, c'est avec Thomas Bénèche.
C'est l'information de la soirée, nous la développons sur France Info. Le président des États-Unis a décidé d'envoyer 2 sous-marins nucléaires dans des zones qualifiées d'appropriées en réaction à des propos de l'ancien président russe Dmitri Medvedev. Donald Trump ne précise pas les propos qui ont été le point de départ de sa décision. Le parquet de Nanterre requiert un procès pour viol pour Achraf Hakimi. Le footballeur du PSG est accusé du viol d'une jeune femme en 2023 chez lui dans les Hauts-de-Seine. 2 versions s'opposent dans ce dossier. Le joueur dit avoir seulement embrassé la plaignante quand cette dernière indique que le footballeur l'a violé, le footballeur du PSG. Il appartient désormais au juge d'instruction en charge de ce dossier de dire s'il ordonne ou pas la tenue d'un procès. Un homme est décédé aujourd'hui en Côte d'Or et il s'est vraisemblablement donné la mort. On le soupçonne la nuit passée d'avoir tué 2 collègues par balle, des faits survenus dans une entreprise de BTP près de Dijon à Bressay-sur-Tille. Les 2 victimes ont été retrouvées dans leurs voitures respectives. On ignore à ce stade quel est le point de départ de ce dossier. Si vous devez prendre la route demain pour partir en vacances, vous ne serez pas seul. Bison futé, voix
la beach party jusqu'à 2h du mat. Oh, qu'est-ce que c'est bien, qu'est-ce qu'on s'éclate. Et c'est uniquement sur Nostalgie. Michael Jackson à suivre. les belles stars également. Et puis là, ce sont les Modern Talking dans le Nostalgic Party sur Nostalgie.
Love is a burning fire, stay. Cause then the flames grow higher, babe. Don't let him steal your heart. It's easy, easy. Girl, this game can't last forever. Why? We cannot live together, try. Don't let him take. Can't you see, brother Louie, Louie, Louie? I'm in love, set to free. Oh, she's only looking to me. Only love breaks a heart, brother Louie, Louie, Louie. Only love's paradise. Oh, she's only looking to me.
Et de bonne humeur.
Nosta Beach Party.
22h-2h sur Nostalgie.
Nostalgie.
Vous écoutez Nosta Beach Party.
Musique,
fête
et bonne humeur garantie.
As I lie here, thinking of you, I realize that nothing is new.
Time.